Alors, en vrai, je pense qu'on peut juste. Voilà, ça c'est très bien. Ça en vire. Ouais, ok, bon, on tente, on tente. Tout le monde a eu 17 ans. Tout le monde a palpité. Tout le monde vit son adolescence d'une manière différente, sans doute. Mais on en garde tous des souvenirs, des traces. Pourquoi pas des espoirs. Alors ouais, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Comment je dois la vivre, cette adolescence? Comment je dois être? Et les autres? Ceux qui ont eu 17 ans avant moi? Comment ils ont fait, eux?
L'adolescence, c'est la période où j'ai commencé à être qui je suis.
Betty, c'est la mère de ma meilleure amie.
Elle a un côté un peu punk. C'est quelqu'un qu'on peut difficilement énerver. Elle prend toujours la vie du bon côté.
Dans le sens où j'ai un peu séparé le monde extérieur, le monde des adultes, avec le mien, avec mes pensées, mes idées.
Elle avait 17 ans en 1990. Je crois qu'elle n'a pas fini de vivre son adolescence.
Que ce soit musicalement, que ce soit politiquement, que ce soit philosophiquement, elle commençait à démarrer un peu. Voilà, j'essayais de trouver une identité.
Je choquais beaucoup ma mère par ma tenue vestimentaire.
Marie-Claude, c'est ma tante. Je crois que c'est un peu comme ma deuxième mère.
Et je choquais mon père par mes opinions politiques.
Je dis ça parce que c'est elle qui m'a appris les bonnes manières. Comme par exemple manger avec une fourchette. Parce que ma mère m'autorisait à manger avec les mains. Et ça, ça insupportait ma tante.
Ma mère me trouvait que je ressemblais à rien du tout, à une clocharde avec mon grand manteau long. Et puis mes bottes, mes cuissardes et mes mini-jupes. Ça c'était, je me souviens, le problème.
Elle avait 17 ans en 1969. Elle a été un peu coupée dans sa jeunesse parce qu'elle est tombée enceinte à cet âge-là.
Enfin, la mode des jeunes, ça a commencé à cette époque-là, quoi, après 68, où on s'est un peu lâché. Sinon, avant, il y avait des tenues. Les garçons avaient des pantalons courts jusqu'à 15 ans, 16 ans. Et puis après, ils mettaient les pantalons longs. Les filles, elles étaient avec des jupes plissées jusqu'au même âge. Et après, elles avaient la petite tenue de petite femme, petite jupe droite. Et moi, je ne me suis jamais habillée comme ça, en fait.
Ouais, ouais, j'ai suivi un peu Creepers. Teddy, ses coiffures, ses coupes au carré très très courtes, et puis tout le côté du crâne rasé là qui revient maintenant, c'est assez drôle.
C'était la mode du power flower, donc les tuniques indiennes, les pantalons, les jeans, alors ça c'était...
Voilà, puis alors comme il n'y avait pas trop les teintures et tout, puis pareil, on n'avait pas trop de thunes, moi je me décolorais les cheveux avec du mercurochrome, hein. Voilà.
On mettait le jean avec des fleurs décorées, des slogans politiques aussi, des peace and love. Ça aussi, ma mère n'aimait pas trop les gribouillages sur le pantalon. Mais c'est vrai que tout le monde n'était pas aussi à la pointe de la mode, on va dire.
Je ne sais pas si on peut parler de mode de nos jours. Tout le monde s'habille comme il veut. Enfin, tu me diras, toutes les filles portent des Stan Smith comme dans les années 70.
Hey, ouais.
Pour faire entendre ce que c'est d'avoir 17 ans aujourd'hui, sans que personne ne sache, j'ai posé un micro sur une table basse à une soirée.
Ah ouais, les Chinois sont pas
des Coréens. Non, ils ont des copies.
Ah, mais c'est qui, là? Ah, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de Chinois.
Ils ont un Facebook.
Ah oui, les...
Vous parlez du fait qu'ils avaient, ils avaient pas le même Facebook que nous, ils avaient un...
Mais les Coréens, ils ont même pas Internet, gros, ils ont pas
Facebook. Mais si, ils ont Internet.
Ils ont pas Internet, en
fait. T'as vu, c'était quoi? C'est pas des hommes de Cro-Magnon.
Ça me fait rire, putain, un iPhone, vous retournez.
Ouais, on est pas très malin, ouais. Mon grand-père, lui, serait complètement perdu dans ce genre de discussion.
Maintenant, ma mère est morte, j'étais en 1930. Alors, c'était ma belle-mère. Puis bon, c'est pour ça que je suis parti aussi, parce qu'il y avait des accrochages.
Il avait 17 ans en 1941, pendant l'occupation allemande.
Parce que je m'entendais plus trop, je voulais m'engager, enfin, je voulais m'en aller.
Lui et moi, on est les deux seuls garçons de la famille. Du coup, ça nous a rapprochés.
Certificat d'études primaires. Avec la mention bien. C'est tout, mes études. C'est arrêté, on a arrêté à 14 ans.
Mon lycée, c'est déjà une aventure, hein, parce que j'ai redoublé la seconde et la terminale. Donc j'ai fait 5 ans de lycée au lieu d'en faire 3. Parce que je m'ennuyais. Et à la fois je m'ennuyais, à la fois je trouvais ça pas mal finalement d'être à l'école. Et j'ai continué longtemps après, puisque j'ai fait 5 ans d'école d'art.
Alors, j'avais trouvé là en... Est-ce qu'il faisait pour la restauration paysanne? Et j'ai été pris pour repartir dans le Morvan.
Ben encore une fois, je crois qu'on joue à essayer d'être soi-même.
Avril 41.
Et ça demande pas mal d'efforts, ou je ne sais pas comment dire, pas d'efforts, mais en tout cas de questionnement. Pour ma part, me questionner et être à l'écoute aussi du monde qui m'entourait.
Il y a eu toute l'armée allemande qui défilait avec leur musique, avec donc c'était aussi bien que des bombardements, des trucs, mais enfin, quand ils sont partis, il n'y avait plus de trucs comme ça.
Bon, c'était un peu pour moi le début du punk, là, tout ça, Ludwig, les Berus, voilà, c'était un peu cette époque-là.
Bah, celle qu'on écoutait après, qu'on aimait, c'était tous les groupes anglais, bon, que mes parents n'appréciaient pas trop, les Sauvages, musique de Sauvages, comme ils disaient, mais c'était tous les anciens qui disaient ça.
Même les Négresses Vertes, la Mano Negra.
Les Rolling Stones et Simon Garfunkel, il n'était pas traduit comme ça, mais oui, les Beatles même, enfin, ils n'aimaient pas les parents, cette musique.
Moi, j'écoute plutôt Booba, Caris, et mes parents continuent de penser que c'est de la musique de Sauvage. Et puis, je joue de la guitare aussi. Ouais, enfin, pas très bien, mais...
J'espère que personne n'a pas connu cette chanson.
Parce que je pense que c'était l'univers que j'avais envie d'avoir à moi. Et ils avaient le leur, même si effectivement on avait des choses, des musiques communes. Mais c'était mon univers à moi, ouais, avec le look qui allait avec, tout ça.
Qu'on a aimé après, c'était Maxime Le Forestier, qui d'ailleurs faisait bien la jonction avec les parents. Et puis Léo Ferré, bon, évidemment.
Là, je faisais partie de mon monde à moi. Il existait vraiment comme... Il y avait une séparation, alors que quand j'avais 12 ans, non, il n'y en avait pas.
Il fallait s'enfuir, quoi. Par des provocations vestimentaires, musicales, politiques. L'enfance, pour moi, elle a duré jusqu'à 14-15 ans. Quoi.
On est parti dans ce concert. C'était déjà bien rock'n'roll, l'ambiance du concert, etc. Et donc, on est resté dormir sous un Porsche dans la nuit à Marseille. Pour moi, c'était beaucoup déjà de faire ça. Voilà, j'avais l'impression d'être vraiment une punk, tu vois. Je dormais, il pleuvait, on dormait tous les uns collés aux autres, on buvait de la bière, il était 4h du matin, 5h, jusqu'à ce qu'on se réveille par la lumière du jour et qu'on rentre. Voilà, je trouvais ça pas mal comme truc. Puis avant, on était passé à l'épicier, ça m'avait fait beaucoup rire, parce que pour acheter de la bière, on n'avait pas d'argent. Puis, par principe, ils avaient acheté un oignon et on avait volé tout le reste des bières.
Donc, je prends une latte, je tire et tu me fais une soufflette, d'accord.
Ouais, je passe plus, non, c'est bon.
Ouais, il y a moyen, je le prends.
Ah
ouais,
il programme son père.
Non, mais c'est ça, genre.
Non, mais il faut prendre, je peux comprendre.
C'est gaffe, Oscar, elle va se prendre de...
Je me souviens qu'un midi, je rentrais manger chez moi et mon père a vu mon paquet de cigarettes dans la poche arrière de mon jean et il m'a dit, si tu veux fumer après le repas, tu peux. Hein. Voilà. J'ai dit non, merci, ça va, j'avais honte quand même de fumer devant lui, mais...
Il y avait des fêtes de village comme ça. Et puis alors, j'étais avec mes deux copains... Trois copains, même. J'ai bu.
Oui, j'ai pris de la drogue, mais pas des choses bien méchantes. Ouais, mais parce que je suis trouillarde. Bon, c'est-à-dire que j'ai dû fumer du cannabis, voilà.
Ils étaient contents parce que ils m'avaient jamais vu sous. Cette fois-là, j'étais bien secoué. Il y avait 5 km, on en a fait au moins 15, parce qu'on partait dans le fossé, on partait de l'autre côté, on se relevait. On partait de l'autre.
J'ai fumé des joints, hein, ça allait. L'acide, j'en ai pris 2-3 fois et c'était trop torride pour moi. Et j'étais trop mal après, trop...
Ouais, trop défoncé, quoi. Bon, nous aussi, on fume des joints. Hein. Comme la plupart des gens de notre âge. Surtout en soirée. Puis c'est pas tabou, et puis c'est courant, donc faut pas s'en faire.
La drogue, non. On connaissait pas ça à l'époque, quand j'étais jeune.
Mais donc ça circulait énormément, tous les trips, les extas. C'était monnaie courante, hein. Parce que c'était aussi début 90, c'était le début des free parties.
Il y avait des descentes qui étaient terribles, quoi, où vraiment plus rien ne m'intéressait. À ces moments-là, j'aurais eu envie d'arrêter de faire l'instit, donc j'ai pas continué ça.
Ce vendredi-là, on regardait un match tous ensemble, et puis...
Mais les gars, en fait, il y a 4 fusillades là dans Paris qui sont éclatées en même temps. Là.
Et les gens, ils sont bloqués dans le Stade de France.
François Hollande est parti au Stade de France, des grenades auraient explosé.
What? Ouais, c'est l'anarchie, les gars, les
ça part en couille, la France, les gars.
Au départ, on ne mesurait pas ce que cette information allait engendrer.
Il y a 5 fusillades, Charonne, Récup, 10e, Saint-Denis.
Ah bah voilà, dans quoi dans le monde? Dans le 11e arrondissement.
Mon grand-père, c'est un grand marcheur. Aujourd'hui, il est dans un fauteuil roulant. Souvent, il me raconte ses rêves, où il est debout, et où il continue de marcher.
Non, j'ai pas eu de copine. Pas le temps, j'ai été là-bas. C'était un petit hameau. Il y avait deux filles dans ce hameau qui étaient nées là-bas. C'est un petit parisien. Non.
J'ai eu mon premier rapport à 16 ans. C'était un gars qui était vachement plus âgé que moi, qui devait avoir, pareil, 5-6 ans de plus que moi, je crois, avec qui je suis restée un moment aussi.
C'était un garçon avec qui je suis sortie pendant les vacances, et puis il était guitariste et chanteur dans un groupe. C'est très fun.
C'était catastrophique. Enfin, catastrophique, je veux dire pas forcément physiquement ou moralement, hein, c'est juste que c'est sans intérêt, quoi.
C'était un peu précoce pour l'époque, hein. Pour maintenant, c'est un peu vieillot, mais... J'avais 18 ans et demi.
Je crois que c'était l'après-midi et c'était au bord d'une calanque. Voilà.
Faut dire que là, on faisait ça aussi sans parachute. Hein.
Ah, mon premier rapport. Tu sais, c'est avec ma femme, c'est 66 ans qu'on est mariés. Alors, je me rappelle de ça, si tu veux.
Et puis après, j'ai été adulte parce que j'ai eu ma fille très tôt. Et puis après, j'ai bossé. Et puis voilà, donc... Je suis passée vite dans le corps adulte, quoi. Encore à cette époque-là, c'était d'autant plus difficile. Et puis, c'était pas facile pour moi non plus d'être mère alors que c'était pas un choix.
Ouais, ouais, nous, on était flippés, hein. On avait beau prendre la pilule, on savait qu'il fallait aussi se protéger. Le préservatif, il était partout, tout le temps. Personne sortait sans son préservatif dans la poche, hein. Enfin, de ce que je voyais, ouais, ouais, il y avait une vraie prise de conscience là-dessus. C'était pas rien, quoi. Il y avait ce film formidable, hein, de Cyril Collard, Les Nuits Fauves. Qui nous a marqué, qui a vraiment marqué une génération, quoi.
On était dans cette grande période où c'était Make Love Not War, oui, d'accord. C'était révolutionnaire de coucher, on va dire. C'était révolutionnaire. Bon, après, il y avait pas de, enfin, très peu de possibilités de contraception, pas de d'accès à l'IVG, donc c'était pas.
Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis amoureux. C'est mieux d'être à deux. Avec elle, j'ai moins peur d'affronter la vie.
Il y a une fusillade.
Mais il y a des grenades qui ont sauté, il y a des fusillades.
Ça, à Répu, en face du chez le père de Liam, au Stade de France, à Charonne.
Mon père, il habite à Charonne.
Moi aussi.
Et moi, mes parents, ils m'appellent pas.
Faut écouter ouais, France Bleu.
Appelez-moi.
Oui, on a écouté pendant la guerre, on a écouté la radio, beaucoup.
Ouais, par exemple, le Minitel, ouais, je pense que ça a été un truc incroyable. Mais moi, pas pour moi, non, non. Non, moi, je me souviens surtout que c'était chiant parce qu'on payait super cher le téléphone. Si quelqu'un faisait une recherche sur le Minitel, tu pouvais pas téléphoner en même temps parce que c'était couplé téléphone, Minitel.
J'ai un sac entier de courriers que j'ai changé avec des copines, des copains, que j'ai gardé. Et on s'écrivait pour donner rendez-vous. Et on se rencontrait aussi bien qu'avec le portable. Enfin, c'était un peu plus contraignant, quoi. Fallait attendre. Bon, la poste, c'était rapide aussi, hein. Si on postait le matin, c'était arrivé dans la commune le soir même. Donc,
Oui, on ne communiquait pas. Il n'y avait pas de téléphone. Depuis la guerre, ça, c'est parti à fond.
C'est-à-dire, je trouve que c'est formidable, les nouveaux objets là, comme ça, de communication. Moi, je suis complètement fan de Facebook, etc. Après, je sais pas très bien me servir de plein de trucs. C'est qu'il y a des milliards de choses, Instagram, enfin, il y en a, mais tellement de trucs.
Moi, il me faut mon téléphone. Là, il a été en réparation pendant un temps. Oh, j'étais trop mal, hein. Ah non, non, mais on peut pas faire autrement. Moi, je suis tout le temps en train de regarder les messages. Et même si je suis moins addict que vous, j'imagine, quand même, si, c'est important. Hein.
Je crois pas qu'on soit plus addict que les adultes. Je pense que si tu retires son téléphone à un adulte et un adolescent, ils sont tous les deux aussi perdus.
Tu vois maintenant, même avec ton téléphone portable, tu fais tout un tas de choses. T'as même plus besoin de dictionnaire.
C'est vrai que ça paraît incroyable pour lui. Faut dire qu'il y a quasiment un siècle entre sa naissance et la création de l'iPhone.
Vas-y, mais vous voulez pas éteindre votre téléphone?
Non, non, non.
Franchement, éteins ton téléphone.
Jean-Luc Mélenchon. Non mais attends, ça m'en fout. Qu'il est douloureux, ce froid qui monte dans les os. Ah, j'aime trop ce mec.
C'est qui ça?
Mélenchon. Mélenchon.
C'est un vrai.
Moi, je vote pour
Mélenchon,
moi.
Mais tu votes pour rien,
Mais moi, je vote pour
Mélenchon. Vous votez Eva Jolie.
Mobilisation générale, et puis les gens sont partis. Enfin, les hommes sont partis, comme toutes les guerres. J'étais trop jeune.
C'était la guerre de Yougoslavie, moi, quand j'étais au lycée. Et on avait essayé, avec quelques amis, de créer une espèce d'association pour envoyer des biens, enfin plus au niveau matériel, puisque bon, on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas faire ça. Et on a essayé de faire ça par le biais du lycée.
Mais enfin, je n'avais pas du tout envie. J'ai jamais eu envie de me battre. J'ai même pas fait de service militaire, de rencontre, dans cette période-là. J'ai même pas parti.
On avait envie de s'engager dans un combat qui incluait des choses politiques et peut-être que c'était compliqué pour eux au lycée de mettre ça en place. En tout cas, on était très, très remontés de ne pas pouvoir faire ça.
Voilà, c'est ça la résistance. Pour moi, ma résistance, je ne suis pas parti. Je dis, les patrons, ça allait être le moment de la moisson. Je ne voulais pas les laisser.
Puis il y avait la guerre au Vietnam, donc on était en pleine lutte, quoi, contre... Enfin, en pleine lutte. On avait l'impression, en tout cas, de lutter, d'aller aux manifs. Moi, j'achetais la cause du peuple et je ramenais la cause du peuple à la maison. Et ça, c'était...
C'était une première ébauche de tentative d'action comme ça, un peu humanitaire, je ne sais pas quoi.
Après 68, ça a continué. Les mouvements politiques ont continué. Il y avait beaucoup de groupuscules d'extrême-gauche. Enfin, il y avait les maoïstes, il y avait les trotskistes, il y avait les situationnistes.
Ils ont tous voulu changer le monde. C'est ça, avoir 17 ans. Au final, on a tous les mêmes angoisses, les mêmes espoirs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce 13 novembre 2015, on est rentré de plein pied dans la réalité que nous ont laissée nos parents. Et nous? Comment on va le changer, ce monde?
La liberté... C'est pas ça, il a fallu qu'on se l'approprie, la liberté. Enfin, c'était juste après 68, hein, donc, mais c'est pas retombé quand même. Il a fallu lutter à tous les niveaux, hein, même au niveau des femmes, des droits des femmes. Enfin, c'était pas acquis, puis ça n'a pas été acquis. Puis j'ai l'impression que ça l'est toujours pas, d'ailleurs. On a eu l'impression que tout allait bien après, qu'on était libre. Et puis maintenant, c'est pour ça qu'on n'est pas tant, quoi. En tout cas, qu'il y a un retour en arrière. On n'aurait jamais cru ça, quoi, parce qu'après 68, il y avait petit à petit des choses qui se mettaient en place. On avait accès à plein de choses, enfin, notamment l'IVG pour les femmes, c'était quelque chose de très important. Et puis maintenant, on veut nous remettre le voile, quoi.
Elle a fait une centaine de morts.
Ce soir-là, ça s'est terminé comme à chaque fois, avec des bisous.
Au Bataclan. Gros...